Bonjour et bienvenue sur Asali des mangas, j'espère que vous allez bien. On dit Arag, pas Arangu, Arangar. Arag, c'est le père d'Odan, vous connaissez Odan, on en a parlé la semaine dernière. Je sais pas pourquoi j'ai galéré à dire son prénom qui est très simple à dire. Il n'y a plus de respect ici, pardon, pas punais, je suis vraiment désolée. J'avais tellement hâte de vous parler de Odan, bref, du pays 10 000, que je me suis précipitée sur mon micro. Et donc j'ai fait la faute, il suffisait juste de lire en fait, hein. Arag, 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 Arag. Arag commence un nouveau chapitre de sa vie, plus apaisé, avec sa fille Odan. D'autres parents, d'autres enfants passent aussi par ces moments difficiles, par ce chemin long vers la réconciliation. Parce qu'on peut être si proche, s'éloigner. En même temps.
Ben dis donc, elle s'est provoquée, celle-là. Elle arrive avec ses gros sabots, sa psychologie à 3 francs 6 sous. Psychologue des marmites.
Le thème est émouvant et douloureux.
Donc on va un petit peu épicer avec du sucre et des haricots. Vous voulez bien? On y va.
Et vous allez voir que la lumière revient toujours. Bien sûr. Épisode 162. Aujourd'hui, je vais vous parler du manga 37 secondes, adapté du film du même nom. Bouleversant et beau, simplement beau. Le film est réalisé et scénarisé par Shikari. Vous remarquerez que je prononce en français, je pense à vos oreilles et je pense à moi. Elle nous parlait avec du shadowing et on voit, on est où madame de tes cours? On en est où? Ça se passe comment ta prononciation? C'est toujours aussi laborieux? Ben oui, j'avance doucement. Le film 37 secondes, sorti en 2020, nous parle de Takada Yuma, interprété par Kayama Mei. Yuma a 23 ans et rêve d'être mangaka. Pour l'instant, elle travaille comme assistante avec sa meilleure amie. Leur manga a du succès, mais Yuma voit bien que son amie l'utilise et profite seule. Du succès, elle récolte seule les fruits du succès. Le talent de Yuma n'est pas reconnu et le monde a une fâcheuse tendance à l'infantiliser. La raison qui n'est pas une raison. La jeune femme souffre de paralysie cérébrale et vit en fauteuil roulant. On suppose donc qu'elle ne sait rien faire et qu'il faut tout faire à sa place. Mais Yuma veut vivre le plus ordinairement possible. Elle ne nie bien sûr pas qu'elle est en fauteuil, mais refuse d'être déconsidérée, refuse d'être infantilisée. Mais comment le faire comprendre aux autres? Comment le faire comprendre à cette fille qui se prétend amie? Comment le faire comprendre à la première personne qui veut tout faire pour elle, qui s'acharne, pas pour lui faire du mal, mais au contraire par amour. On parle ici de Kyoko, la mère de Yuma. Et la mère de Yuma fait tout pour sa fille. Puis, sa naissance, Kyoko est toujours là. Il lui parlait pas de sacrifice. Elle vous dira qu'il est naturel pour une mère de mettre sa vie entre parenthèses pour ses enfants. Un manga adapté du film est sorti en 2022 au Japon chez l'éditeur Shinchōsha et en 2025 en France chez Akata. Le manga est scénarisé par Shikari, donc la réalisatrice du film, et dessiné par Kurihara Yohei. Il est disponible aussi en numérique sur Manga.io. Le film et le manga, l'adaptation du film, bien sûr, tous les deux sont tout aussi lumineux, bienveillants et doux. Pour sortir de ses relations étouffantes, d'abord avec sa prétendue amie, puis avec sa mère, Yuma prend des décisions radicales. La première d'entre elles, ne plus subir l'exploitation de son amie et postuler elle-même pour un magazine de prépublication. Et Yuma va vraiment partir à des années-lumière de ce qu'elle fait avec son amie qui profite d'elle. Puisque personne ne veut lui faire confiance, puisque tout le monde pense qu'elle ne sait rien faire, elle va montrer qu'elle sait faire des trucs, elle rentre dans le game par la porte des œuvres
érotiques. Que...
Pourquoi? Bah pourquoi pas? Voilà!
Elle y va, Yuma. Et elle pousse donc la porte. Et se retrouve face à une éditrice...
d'œuvres un petit peu olé olé.
Et Yuma lui montre ses planches. Et l'éditrice, en les regardant, comprend vite que la jeune femme n'a pas d'expérience en la matière. Mais Yuma a du talent, beaucoup. Et ça, l'éditrice aussi le voit. Et lui propose une solution pour gagner en assurance. Et proposer de meilleures planches. Faire des expériences, toutes sortes d'expériences. Yuma prend l'éditrice au mot et commence son exploration. Mais quand on dit expérience, on pense pas forcément à ce que vous pensez présentement, peut-être pas. Est-ce qu'on pense la même chose? Non, moi je pense à des coquelicots. Vous verrez que le manga est classé pour public averti à cause de certaines scènes un petit peu olé olé. Mais rassurez-vous, non seulement on ne tombe absolument pas dans tout ce que vous pourriez imaginer de graveux et de hamham, mais en plus, l'œuvre aborde la question de l'intimité avec pudeur, respect, sérieux et bienveillance. On parlait d'intimité et de respect lors de la chronique sur le manga Corps solitaire épisode 159. On parle encore de respect, de bienveillance, de désir aussi, d'envie, d'intimité dans le manga 37 secondes. Et dans 37 secondes, dans le manga tout comme dans le film, bien sûr, dont il est tiré, l'exploration team ouvre la porte sur de nouvelles découvertes. C'est un petit peu le point de départ qui permet à Yuma de voir autre chose, de se regarder autrement aussi, et de découvrir qu'elle peut avoir des amis, et de rencontrer d'autres personnes. Un monde bien plus vaste que l'appartement qu'elle partage avec sa mère. Elle fera aussi une découverte et qui l'amènera à faire un nouveau pas vers ce monde qu'elle veut connaître pour mieux se connaître elle. On parlait des relations père-fille la semaine dernière avec Odan et son père Arag. Aujourd'hui, on va parler des relations mère-fille avec Yuma et sa mère, Kyoko. Odan et Arag n'arrivaient pas à se parler à cause de leurs colères respectives. À cause des non-dits derrière, tout ce qui était caché. La disparition de la mère d'Odan, jamais expliquée. La guerre, les traumatismes. Yuma et Kyoko n'arrivent plus à se parler à cause de leurs culpabilités respectives. Et là aussi, il y a des non-dits, des secrets de famille, des choses douloureuses. Culpabilité, culpabilité, culpabilité de la mère tout d'abord qui entend porter toute la responsabilité de la maladie de sa fille. Culpabilité de la fille qui estime avoir privé sa mère d'une vie ordinaire avec un mari, des enfants en bonne santé, des instants joyeux, un quotidien paisible. Au lieu de cela, Kyoko sacrifie tout son temps pour sa fille. Pense, Yuma. D'abord rassurant, ce huis clos mère-fille est devenu étouffant pour Yuma qui a bien grandi. Elle est désormais une femme, mais continue d'être traitée comme une enfant.
Et ça, il dit non ! Elle dit non, maman ! Bah bien sûr, il entend plus. Ah bah, hey !
Mais la mère ne le comprend pas, ou plutôt ne veut peut-être pas le comprendre parce qu'elle a peur. Elle vit dans la peur depuis que sa fille est malade. Impossible pour Kyoko de laisser sa fille seule parce que le monde est dangereux, le monde n'est pas fait pour elle. On en parlait dans l'épisode 5, oh comme ça remonte. Épisode 5, chronique sur l'excellent manga José, le tigre et les poissons. Pour Kyoko donc, le monde est dangereux et Yuma ne peut rien faire seule. Pour Yuma, c'est justement l'occasion de s'émanciper un peu, de vivre, de montrer à sa mère que oui, elle peut se débrouiller seule. Et voilà l'origine de cette crise entre la mère et la fille. Mais ici, pas de pic de colère. Elles ont une autre manière de manifester la colère quelque part. Entre elle et elle, c'est plutôt une sensation d'étouffement quotidien.
Elle se marche dessus sans vraiment le faire. La mère entoure, en serre la fille. Et la fille en même temps aime cette chaleur rassurante et protectrice. Et voudrait aussi de l'air. Bah, donnez de l'air, s'il te plaît.
Résultat, la mère comme la fille ont constamment l'air épuisé et triste. Est-ce vraiment ainsi que doit se vivre une vie de famille? Comment se retrouver? C'est toute la question de l'histoire.
37 secondes.
Parfois, l'éloignement est la meilleure façon de se retrouver d'abord soi. On comprend vite que la mère est partie sur une mauvaise analyse. Par amour, bien sûr, mais mauvaise analyse quand même, maman.
C'est pas de ta faute.
Faut d'abord apprendre à se pardonner. Se pardonner d'avoir culpabilisé.
D'avoir fait du mal.
On peut faire bien des dégâts par amour, on peut détruire des familles, on peut faire souffrir terriblement, on peut enfermer, on peut enserrer.
Par amour, parce qu'on sait pas vraiment aimer.
Ah, les êtres humains, ils savent pas aimer, on sait pas aimer, bah pouf.
On veut bien faire, mais on est souvent à côté de la plaque, il faut bien le reconnaître. Et c'est ça l'autre problème, reconnaître qu'on est à côté de la plaque. Reconnaître qu'on s'est trompé pendant parfois beaucoup d'années et que le temps ne se rattrape pas. Mais faut pas culpabiliser là, surtout pas. Sinon c'est pire. On l'a vu avec Arag et Odan. Faudrait plutôt avancer. Avancer à deux. Faire un pas vers l'autre. Faire un pas vers soi, se pardonner d'abord, pardonner à l'autre aussi. C'est pas facile, je sais, ça demande du temps. De la patience, de la bienveillance, de l'écoute. Être doux avec soi, être doux avec les autres, c'est tout un parcours bien actuel dans ce monde où tout semble aller de mal en pis, n'est-ce pas ? Soyons humains, quoi.
Oh ! Révélation. Ah bah,
soyons humains, on est des êtres humains après tout.
Cette chronique est pleine de découvertes.
Kyoko la mère, bien entendu, n'est pas la seule à devoir faire ce chemin vers elle-même, progressivement, petit à petit, avec de l'aide s'il le faut, bien entendu. Elle n'est pas la seule à faire ce chemin pour se pardonner. Yuma, qui culpabilise aussi, doit faire ce chemin car elle aussi n'a rien à se reprocher. C'est pas de sa faute, c'est terrible, c'est cruel, c'est atroce et c'est pas de sa faute. Comme on le voyait avec José, l'héroïne du manga José, le tigre et les poissons, la frustration de Yuma comme la frustration de José sont bien sûr légitimes. Ces gens qui marchent sur leurs deux jambes et qui ne prennent pas forcément la peine de se baisser pour être à leur hauteur et qui semblent les mépriser avec leurs jambes qu'ils balancent dans tous les coins du monde, c'est embêtant parfois, c'est frustrant. Elles aussi, elles auraient aimé pouvoir marcher de la sorte. Alors comment marcher malgré tout ? Comment marcher tout court ? Comment avancer dans ce monde qui parfois ne nous regarde pas ou qui nous regarde mal ? La grande force de l'histoire de 37 secondes, aussi la force de José, c'est le soin mis à nous faire naviguer entre les pensées des différents personnages. Ils sont très humains, très actuels et on ressent beaucoup d'empathie envers eux. Il n'y a pas de réponse toute faite bien sûr, mais plutôt des moments de vie présentés dans cette histoire avec une grande bienveillance, une grande douceur, beaucoup de pudeur, de respect aussi. Et c'est cette lumière, cette simplicité comme je vous en parlais en début de chronique, cette douceur qui rend le manga et le film d'origine si bouleversant et si beau, tout simplement. Et c'est sur cette note en toute simplicité que je vous laisse. 37 secondes est une œuvre belle, tant le film que le manga. On s'est concentré ici sur la relation entre la mère et la fille, mais l'histoire nous parle aussi de famille au sens large, d'amitié, d'intimité, on l'a dit, et de ce regard que l'on pose sur l'autre et que l'on pose sur soi aussi. Comment regarde-t-on la différence ? Ne faudrait-il pas plutôt regarder les personnes ? Parce que personne ne devrait se réduire à une jambe, une oreille, à un fauteuil, quelque chose en plus ou en moins. C'est là, ce n'est pas là. Et alors ? Et alors ? La personne, elle, est bien là. Et c'est le plus important. C'est ce qui nous lie. Nous, les humains. Soyons humains pour changer un peu. De l'humanité, de grâce, de l'humanité. Cessons donc de nous renier. Et regardons-nous avec bienveillance et respect. Et nous, bien sûr, on se retrouve la semaine prochaine, comme d'habitude, sur Asali des mangas, asalidesmangas.fr, bla coca, 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 tout le temps sur Club Shoujo, comme d'habitude. Et mon prénom, Asa, comme affûtoir, sgraffito, et à plat. L'affûtoire, c'est un outil qui permet de tailler précisément les mines de crayon, porte-mine, fusain ou estompe. Effectuer un sgraffito consiste à gratter une couche de peinture, de crayon de couleur ou encore de fusain pour révéler la couleur ou la texture de la couche en dessous. Et réaliser un aplat consiste à appliquer une couleur ou une valeur uniformément sur une surface sans dégrader. Cette technique est couramment utilisée en peinture et en illustration, nous dit le site Apprendre à dessiner. Toutes ces définitions viennent de ce site, du lexique de ce site. Voilà, j'ai voulu un petit peu faire
quoi ? J'ai pas la suite.
Faire autrement que asticot, salade à abricot, n'est-ce pas ? Et puis, prendre un peu le champ lexical du dessin, puisque notre ami Yuma est mangaka et fait des dessins et de beaux scénarios. À la semaine prochaine. Portez-vous bien, j'ai plus de batterie. Elle est où ? Salut !